Nous allons prendre un passage dans Genèse chapitre 35. Dans ma lecture personnelle, je suis en train de lire dans la Genèse et donc un peu ce matin, je vais partager un peu le fruit de ma lecture personnelle. Donc Genèse 35 et nous allons lire les versets 1 à 7. Donc il s'agit de Jacob qui revient vers les territoires où se trouvait Isaac, son père. Donc Jacob qui revient, qui boucle la boucle, comme on va dire. Donc 35, verset 1, il nous dit, « Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel et demeure-y. Là, tu dresseras un autel au Dieu qui t'est apparu, lorsque tu fuyais Ésaü, ton frère. Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, « Ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, purifiez-vous et changez de vêtements. Nous nous lèverons et nous monterons à Bethel. Là, je dresserai un autel au Dieu qui m'a exaucé dans le jour de ma détresse et qui a été pour moi pendant le voyage que j'ai fait. » Ils donnèrent à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains et les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Jacob les enfouit sous le térébinthe qui était près de Sichem ou Sichem. Ensuite, ils partirent. La terreur de Dieu se répandit sur les villes qui les entouraient et l'on ne poursuivit point les fils de Jacob. Jacob arriva, lui, et tous ceux qui étaient avec lui à Luz, qui est Bethel, dans le pays de Canaan. Il bâtit là un autel. Il appela ce lieu El Bethel, car c'est là que Dieu s'était révélé à lui lorsqu'il fuyait son frère. Alors, bien sûr, pour comprendre cette situation, il faut avoir tout le contexte et tout le récit précédent. Mais au verset 34, Jacob vient de vivre une expérience qui aurait pu provoquer l'extinction de sa famille. Et puis, et avec ça, bien sûr, c'est toute la promesse, les promesses de Dieu à Abraham seraient évanouies, hein, et évaporées. Et donc, là, théoriquement, hein, donc on sait que les plans de Dieu ne peuvent pas être détruits, mais pratiquement ça a failli, hein, comme beaucoup de fois dans la Bible. On peut voir combien de fois dans la Bible on a l'impression que l'ennemi a presque réussi, mais après Dieu a sauvé la situation et nous avons pu arriver jusqu'au sauveur qui est né pour nous. C'est au chapitre 34, il s'agit de Dina, la seule fille de Jacob, et qui nous dit au chapitre 34 verset 1 qu'elle est sortie pour voir les filles du pays. Elle n'avait pas de sœur, et donc elle est tentée d'aller faire la connaissance des filles du pays. Le risque, lorsqu'on va pour découvrir le monde, c'est que cela ne se passe pas toujours comme prévu. Hein, on n'est pas... On va aller goûter dans le monde, on va essayer de faire des amis ou des pratiques du monde, et c'est difficile de faire le touriste. En général, ils veulent qu'on participe, et lorsqu'on commence à participer, les choses parfois vont plus loin que ce qu'on aurait voulu. Et après, on se retrouve avec des problèmes qu'on n'a pas anticipés. Et là, il nous dit que... elle est sortie pour voir les filles du pays, et nous savons ce qui est arrivé à Ève, hein, lorsqu'elle a voulu, elle était attirée par la connaissance du bien et du mal. Hein, et souvent, nous disons, mais bon, c'est juste pour m'éduquer, c'est un peu pour voir, je ne veux pas être complètement isolé dans mon cocon. Mais ce qu'elle n'a pas prévu, c'est au verset 3 du chapitre 34, c'est que son cœur... verset 2, elle fut aperçue de Sichem, fils de Hamor, prince du pays. Il l'enleva, coucha avec elle et la déshonora. Ça, ce n'était pas prévu. C'était une situation difficile. Jacob, tout d'un coup, il a peur parce que les frères vont se venger. Je ne vais pas lire l'histoire ni vous la raconter, mais à la fin, eh bien, par la ruse, ils vont aller massacrer tous les habitants de Sichem et venger leur sœur. Et là, tout d'un coup, Jacob a peur. Au verset 30, donc à la fin du chapitre 34, au verset 30, il nous dit « Alors Jacob dit à Siméon et à Lévi, donc les deux frères de Dina, « Vous me troublez en me rendant odieux aux habitants du pays, aux Cananéens et aux Phérésiens. Je n'ai qu'un petit nombre d'hommes, ils se rassembleront contre moi et me frapperont, et je serai détruit, moi et ma maison. » Donc là, tout d'un coup, et Jacob, c'était le gars qui avait une perception de la situation, il comprenait très bien, et c'est pour ça qu'il était si rusé. Et là, lui, il a peur. Il dit, oui, vous avez fait ça, vous avez vengé votre sœur, mais vous ne savez pas ce que vous avez pu provoquer. Les gens du pays, eh bien, vont les venger, et nous serons éradiqués. Et là, on se dit, waouh, c'est grave. La situation est grave, et si on était en train de la vivre, on arrive là. Et Jacob, ce n'est pas juste une question de mourir, mais c'est une question aussi de toutes les promesses qui reposaient sur lui. Et on aurait envie de poser la question suivante. Comment Dieu peut-il permettre d'exposer le porteur de la promesse de cette manière, hein, tout d'un coup, comment est-ce que Dieu a permis que les circonstances se développent telles que tout d'un coup on se trouve dans cette situation critique? Et souvent en tant qu'homme, très vite, en tant qu'humain, on est très vite pour dire « Mais pourquoi Dieu il a permis ça, puisqu'il peut tout, puisqu'il le voit à l'avance, il sait comment ça va se passer. Pourquoi est-ce qu'il permet des situations pareilles ?» Peut-être que, est-ce que nous posons la mauvaise question, hein, parce que, vous savez, il n'y a que les bonnes questions qui mènent à quelque chose de valable, hein. C'est facile de poser des mauvaises questions et puis après qu'ils nous envoient dans toutes sortes des conclusions et parfois même nous perturbent, hein, dans nos déductions. Et ce qui arrive souvent dans le monde qui nous entoure, quand il s'agit de Dieu, ils posent toujours ou ils posent la mauvaise question ou bien délibérément ils posent la question qui va mener à des conclusions. Hein, il dit pourquoi est-ce que Dieu, si c'est un Dieu qui est plein d'amour, pourquoi est-ce qu'il tolère plein de souffrances dans le monde? Et c'est une question, puis après ils sont contents parce que ça mène à la négation de Dieu ou à être justifié parce qu'on ne suit pas Dieu, mais ce n'est pas la bonne question. Peut-être que la question qu'on devrait se poser, c'est que fait Jacob à Sichem? C'est peut-être lui qui est au mauvais endroit. C'est peut-être lui qui est dans la désobéissance. C'est peut-être lui qui ne devrait pas être là et c'est pour ça qu'il a des ennuis. Et parfois aussi, nous disons, mais Dieu, pourquoi il ne m'a pas protégé? Pourquoi il a permis cela? Et peut-être que moi, je suis dans la désobéissance, je ne suis pas là où je dois être. Et donc, c'est sa seule manière qu'il a pour me réveiller, me faire lever les yeux vers lui, me poser des questions et revenir vers lui. Et là, justement, bien sûr, Jacob avait rencontré Ésaü, ils s'étaient embrassés, semble, pour la forme en tous les cas, on croit que tout le monde est pardonné, mais ce n'est pas certain, et Jacob n'est pas sûr, et donc il dit à son frère, écoute, vas-y, moi j'arrive parce que j'ai plein d'animaux, j'ai des bêtes qui sont enceintes, des bêtes qui sont allaites et tout ça, donc je vais venir doucement, vas-y. Et puis alors il dit, je te retrouverai plus tard. Mais en fait, Jacob, alors que normalement Ésaü allait vers le sud, donc là où se trouvait Isaac, Jacob va partir vers le nord. Et peut-être que c'est juste parce qu'il ne veut pas être près de lui, au cas où les choses se retournent ou créent une situation, il n'a pas confiance. Et peut-être c'est juste une manière, lui, parce qu'il est tellement rusé, parce qu'il est tellement perspicace sur la situation, les situations, eh bien peut-être que c'est justement lui qui essaye par son intelligence de prévenir des ennuis au lieu de faire confiance à Dieu. Et donc lui va vers le nord, il va vers Sichem, et au lieu d'aller vers Bethel. Parce que quand il fuyait son frère, 20 ans plus tôt, quand il fuyait son frère, c'est à Bethel qu'il a eu le songe avec l'échelle qui descendait du ciel. Et là, il avait fait un vœu, il avait promis à Dieu. Hein, nous avons ce vœu dans le chapitre 28 et versets 20 à 22. Et voilà le vœu, hein, le vœu qu'il a formulé. Il a dit « Si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger, des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu, et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. » Donc voilà un vœu, il a dit, si tu me gardes, si tu prends soin de moi, si tu me ramènes jusqu'ici, eh bien, moi, eh bien, je te ferai confiance. On peut penser ce qu'on veut de son vœu. C'était un peu... il ne mettait pas en doute ça, personne à lui. Il demandait à Dieu de se justifier. Mais il a promis de revenir à cet endroit. Et là, il n'est pas en train de revenir. Il ne retourne pas à Bethel. Et il va à Sichem. Et ce que nous voyons ici... Donc, c'est au chapitre 33, c'est que, au verset 18, il nous dit à son retour de Padan Aram, donc là où il était avec son oncle, il dit « Jacob arriva heureusement à la ville de Sichem, dans le pays de Canaan, et il campa devant la ville. Il acheta la portion du champ où il avait dressé sa tente, des fils d'Amor, père de Sichem, pour 100 Kézita. Et là, il éleva un autel qu'il appela El Eloé Israël. » Donc, ça y est, il allait s'installer. Il a même acheté le terrain à côté de Sichem. Et là, il plante sa tente. Et puis, il élève un autel. Et c'était comme ça qu'il marquait, hein, quand il élevait un autel. Ça veut dire qu'ils étaient là pour quelque temps. Donc, tous les signes étaient qu'il allait rester là et s'installer là, voilà, près de Sichem, plutôt que de retourner à Bethel, qui se trouve à 24 km de là. Et il fait une bonne chose, il construit l'autel, et puis même il appelle l'autel El Eloi Israël, c'est-à-dire l'Éternel est le Dieu d'Israël. Et voilà, il a fait tout bien. Hein. Mais voilà, il s'installe, il y a l'autel, Dieu est mon Dieu, et tout est bon. Mais le problème, c'est que si Dieu ne veut pas qu'il soit là, si Dieu n'a pas prévu qu'il soit loi, on ne peut pas remplacer la volonté de Dieu et l'obéissance à la volonté de Dieu par autre chose de semblable. Hein. Quand Dieu veut quelque chose, il demande quelque chose, on ne peut pas aller faire autre chose et croire que ça passe. Dieu, dans sa grâce, lui dit, tu dois retourner à Bethel. Là, le risque qu'il prend à Sichem, et lorsque nous lisons un peu les projets, hein, parce que bon, je ne vais pas lire tout le récit du chapitre 34, mais lorsque nous lisons un peu les projets des habitants de Sichem. Et au verset 20 du chapitre 34, il nous dit « Hamor et Sichem, son fils, se rendirent à la porte de leur ville, et ils parlèrent ainsi aux gens de la ville. Ces hommes, parlant de Jacob et ses fils, ces hommes sont paisibles à notre égard. Qu'ils restent dans le pays et qu'ils y trafiquent, le pays est assez vaste pour eux, nous prendrons pour femmes leurs filles, et nous leur donnerons nos filles. Mais ces hommes ne consentiront à habiter avec nous pour former un seul peuple qu'à la condition que tout mâle parmi nous soit circoncis comme sont eux-mêmes circoncis. Leurs troupeaux et leurs biens et tout leur bétail ne seront-ils pas à nous ? Acceptons seulement leurs conditions pour qu'ils restent avec nous. Vous voyez, ils sont en train de là et c'est comme s'ils négocient, ouais, on va venir amis, tout ça, mais après, leur projet, c'est, mais nous, on va les assimiler. Et justement, c'est ça que Dieu ne veut pas, c'est que ses enfants soient assimilés, parce qu'après, ils n'ont plus d'impact, ils ne ressemblent à rien, s'il n'y a plus de représentation. Et surtout, dans le cas de là, des enfants d'Israël, c'est que parce que Christ était le descendant. Si on perdait toute notion de qui était qui et qui était le fils d'Abraham, eh bien après, comment réidentifier le Christ? Donc, c'était indispensable que ce peuple reste à part. Mais là, s'il s'était installé à Sichem, et puis un peu dans le même problème que Lot, hein, qui s'est approché trop de Sodome, et puis finalement qui habitait dedans, et puis après, ses filles se sont mariées avec des hommes de là, et puis tout d'un coup, ben, il était assimilé dans la ville. Eh bien là, le risque est là encore, et Dieu dit non, tu dois pas rester là, même si tu as bâti un hôtel, mais là, eux, ils veulent t'assimiler. Ils sont pas en train de combattre ton Dieu, ils sont seulement devenir amis. Et vous savez, des fois, on arrive dans des situations où on veut être amis, on veut tout ça, mais en même temps, on a l'impression que c'est nous qui sacrifions toute notre identité et pour devenir l'un des leurs. Et donc, c'est pour ça qu'on arrive à ce chapitre 35, hein, j'arrive maintenant dans le contexte, j'ai établi le contexte, au chapitre 35, Dieu dit à Jacob, au verset 1, « Lève-toi, monte à Bethel et demeure-y là. » Là, tu dresseras un autel à Dieu, au Dieu qui t'est apparu lorsque tu fuyais Ésaü. Il dit, non, c'est pas ici que tu dois être, tu vas à Bethel, et c'est là que tu demeureras, et c'est là que tu dresseras un autel. Donc, dans un sens, oui, il y avait un autel, et Dieu avait, et Jacob l'avait donné un joli nom, mais c'était pas ce que Dieu voulait. Hein, c'était pas. Et on pourra lire... dans 1 Samuel 15, verset 22, c'est Samuel qui parle au roi Saül, le premier roi d'Israël. Il dit, « Voici l'obéissance vaut mieux que le sacrifice, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. » Il dit, non, tu ne peux pas remplacer par autre chose. Tu ne peux pas dire, « Écoute, Dieu, oui, je ne vais pas faire ça, mais là, je vais te donner quelque chose. » Tu demandes de moi, je sais que tu veux ça, mais moi finalement je vais remplacer par autre chose. Il dit non, Dieu ne veut pas, il veut l'obéissance plus que les sacrifices, plus que les dons, plus que autre chose. Et donc Dieu lui dit clairement, il dit monte à Bethel, demeure-y, et là tu dresseras un autel. C'est clair. C'est trois verbes très clairs qui expriment exactement ce que Dieu veut. Il dit « monte à Bethel », c'est là la direction et la destination. Il dit « demeure-y », c'est-à-dire c'est là que tu planteras ta tente, c'est là que tu te fixeras. Et troisièmement, tu dresseras un autel au Dieu qui t'est apparu. Hein, donc ce n'est pas juste évoquer le nom de Dieu, mais c'est vraiment le Dieu qui t'est apparu, celui à qui tu t'es engagé, celui à qui tu as fait la promesse, c'est là que tu dois aller. Et finalement, Dieu n'a pas donné 36 possibilités, mais en même temps, c'était là que le vœu de Jacob, c'était, il dit, si tu me gardes, eh bien je viendrai et je te rencontrerai ici, à Bethel. Et donc, nous voyons déjà au chapitre 2, c'est que le retour à la volonté de Dieu, hein, nous sommes tous capables de nous tromper, nous sommes capables de nous égarer, peu importe pour les raisons, de nous éloigner de la volonté de Dieu pour nous. Mais il y a un moment où Dieu dit, écoute, si tu veux revenir, tu dois revenir. Mais le retour à Dieu n'est pas sans préparation. Parce qu'au verset 2, donc chapitre 35, verset 2, Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, et purifiez-vous, et changez de vêtements. Jacob, puisqu'il le dit, c'est qu'il sait qu'il y a des dieux étrangers parmi eux, hein, ses enfants, leurs épouses, qui a à savoir, et je ne sais pas où ils ont pris leurs épouses, mais en tous les cas, quelque part, ils avaient dans les bagages, ils avaient des dieux étrangers, ils avaient peut-être pris des quelques coutumes par-ci, par-là, et puis en plus, ils avaient, on le verra plus tôt, ils ont ces boucles d'oreilles, ou qui peut-être servaient d'amulette, ou quelque chose, mais étaient associés à cela. Quand Jacob est parti de chez son beau-père, hein, Laban, eh bien, il ne savait pas que Rachel avait volé les dieux de son père et les avait cachés. Là, il ne savait pas. Hein, on le voit dans le chapitre 31, verset 32. Mais maintenant, ici, eh bien, il sait qu'il y a ces dieux étrangers. Il est conscient, mais apparemment, il n'aurait pas dit à ses enfants de s'en débarrasser, ou il n'avait pas insisté qu'ils s'en débarrassent. Il avait toléré la présence. Vous savez, des fois, c'est une petite chose, c'est pas grand-chose, et puis petit à petit, les choses s'accumulent. Et puis alors, ses enfants, eh bien, au lieu d'adorer le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de leur père, Jacob, eh bien, ils avaient ajouté des petites choses. Et là, Jacob sait tout de suite. Il sait que s'il doit rentrer à Bethel, s'il doit mettre les choses en règle avec Dieu, eh bien, il faut faire le ménage à la maison. Et alors, il donne cet ordre. Il dit, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous et purifiez-vous. Ça nous rappelle l'entrée des enfants d'Israël en Canaan avec Josué. Hein, dans Josué chapitre 3, verset 5, Dieu dit, Jacob dit, Josué dit au peuple d'Israël, il dit, demain nous allons rentrer dans le pays promis. Et il dit, sanctifiez-vous, car demain l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. Il y a quelque part, il y a un principe qui est souvent oublié, c'est que pour revenir dans la communion avec Dieu et pour retrouver la bénédiction de cette communion avec Dieu, eh bien, elle doit être précédée par la repentance. Hein? S'il y a des choses à régler, on a ces gens qui veulent, oui, Dieu, et puis ils demandent à Dieu, oui, on veut la bénédiction, on veut la communion, on veut tout ce qui est. Et oui, mais est-ce que tu as fait le ménage à la maison? Est-ce que tu as mis de l'ordre dans ta vie? Et c'est un principe qui est trop souvent oublié. Et là, Jacob, remarquez comment il le fait. Au verset 4, il dit, ils donnèrent à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains et les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Et Jacob les enfouit sous le térébinthe, c'est un arbre, près de Sichem. Il les prend et les enterre pour ne plus revenir. Hein, et il les laisse à Sichem, on ne va plus revenir ici, on le laisse là. C'était avant d'arriver à Bethel, avant, c'est en partant, on enterre tout. Il n'a pas fait comme font certains. On va aller à l'église, donc il y a des choses qu'on laisse. Hein, on va aller à l'église, mais lundi matin, on les reprend et puis on reprend la route. Ce n'est pas comme ça qu'il a. Mais c'est là. C'est pour de bon, il les abandonne pour de bon, et il les enterre. Et puis, comme je remarque, c'est que ces dieux-là, ben, ce n'est pas si puissant que ça, hein, puisqu'on les enterre et puis tout va bien. Hein, donc, et certainement, c'est souvent le cas. Et Jacob, eh bien, il le fait correctement et c'est toujours l'image du baptême par immersion, hein, c'est la fin, on enterre, c'est la vie passée et on commence une vie nouvelle. Et c'est un peu cette démarche hein, qu'a Jacob, c'est que le passé, tout ce qui convient éternel de la vie passée, on le laisse et maintenant on commence une nouvelle vie avec Dieu. Et là où Dieu nous veut, dans sa volonté, et il va vers Bethel. Bethel, comme vous le savez, qui veut dire maison de Dieu. Hein, maison. Donc, il arrive et là, au verset 5, ensuite, ils partirent. Hein, d'abord, on fait le ménage et ensuite, on y va. Et remarquez, et tout de suite, hein, il dit, la terreur de Dieu se répandit sur les villes qui les entouraient et l'on ne poursuivit point les fils de Jacob. À la fin du chapitre 34, il avait peur. Il a dit à ses fils, écoutez, vous, ce que vous avez fait avec votre massacre d'honneur, eh bien, vous allez nous attirer des ennuis. Hein, on va bientôt être attaqué. Mais là, dès que Jacob met sa vie en ordre et il décide de vivre pour Dieu, tout d'un coup, eh bien, l'attitude de tous ces gens change. Dieu touche leur cœur. Et maintenant, c'est eux qui ont peur de Jacob. À la fin du chapitre 34, c'est Jacob qui a peur de tous les gens autour de lui. Mais ici, au verset 5, au chapitre 35, eh bien, maintenant, c'est toutes les nations autour d'eux et ils ont peur d'eux. C'est la protection de Dieu. Quand on met les choses, on a Jacob. Et quand vous lisez sa vie, et c'est, je vous disais, c'était mon culte personnel, mais je vois constamment. Oui, je marche avec Dieu, mais en même temps, faut que je fasse attention, et puis il emploie une ruse pour essayer de se protéger. Et il avait toutes sortes d'ennuis, parce qu'il ne faisait pas pleinement confiance à Dieu, et il faisait confiance à ses ruses, mais ça sortait, ça ne fonctionnait pas toujours comme ça devait. Et lui-même dira plusieurs fois, il rendra témoignage, il dit, si ce n'était pas pour Dieu, eh bien, j'aurais été perdu, j'aurais tout perdu, je serais mort, je serais... Il sait cela, il se souvient que c'est Dieu qui a parlé à Laban, il a dit, Laban, doucement avec Jacob, touche pas. Il a dit, parce que, Jacob dira à Jacob, il dit, si c'était, ça dépendait de toi, tu m'aurais renvoyé à vide après 20 ans de travail. Et après, il a peur d'Ésaü. Et il prépare sa ruse, vous lisez l'histoire, il prépare comment essayer d'apaiser Ésaü avec des dons et des belles paroles, et puis il l'appelle Seigneur, et puis il se fait référence à lui-même en tant que serviteur d'Ésaü et tout cela. Mais en fait, c'était Dieu qui avait touché le cœur d'Ésaü pour qu'il ne cherche pas à se venger et qu'il l'embrasse. C'est constamment cette... Et bien sûr, c'est tellement ressemblant à notre vie. On fait confiance en Dieu et en même temps, on se dit, mais il faut que je fasse quelque chose. Et on est en train de constamment... Et Jacob représente tellement bien notre vie et notre... faire confiance à Dieu, ce n'est pas de l'inconscience. Mais lui, là, parfois, il dépendait plus de sa nature en tant que Jacob, hein, le rusé, est plus que sur les pouvoirs de Dieu. Et donc, là, nous voyons, dès que Jacob dit, ça y est, je mets les choses en règle, je vais à Bethel, et là, maintenant, je vais vivre pour Dieu, eh bien, là, tout d'un coup, il n'y a plus de problème, il n'y a plus de menaces, et tout va bien, ils peuvent circuler tranquillement. Et ensuite, nous arrivons un peu plus loin, là, dans ce passage, au verset 9 et 10, vous remarquez que Dieu apparut encore à Jacob, et là, certainement, qui reprend un peu la rencontre de Jacob avec Dieu à Bethel. Et au verset 10, il lui dit, « Ton nom est Jacob, tu ne seras plus appelé Jacob, mais ton nom sera Israël. » Et il lui donna le nom d'Israël. Bon, si nous nous souvenons bien, c'est que quelques chapitres auparavant, lorsque Jacob était en train de revenir, hein, au chapitre 32, lorsque Jacob était en train de revenir en Canaan, et en traversant la rivière du Jabbok, et bien tout d'un coup, au milieu de la nuit, Jacob rencontre un homme et qui l'empêche. Et il se bat avec cet homme. Mais avant, il se bat toute la nuit. Mais il se rend très vite compte que ce n'est pas juste un homme. Hein, et en fait, c'était un ange de Dieu. Et vers le lever du jour, et bien, c'est lui qui s'agrippe à cet homme et dit « Je te lâcherai point que tu m'aies béni. » Hein, et c'est à ce moment-là, dans le chapitre 32, et bien que cet ange dit à Jacob, il dit « Tu ne seras plus appelé Jacob, mais tu seras appelé Israël. » Mais il parle au futur. « Tu seras appelé. » Il n'a pas dit « Ton nom, c'est Israël. » Il dit « Tu seras appelé Israël parce que tu as vaincu contre les hommes et contre Dieu et tu as été vainqueur. » Mais il parle du futur. Mais regardez, il n'est pas appelé Israël jusqu'au moment où il se met tout en ordre et où il décide de vraiment vivre pour Dieu. Donc là, quand il arrive à Bethel, et là, il bâtit l'autel, et il, au verset 7, hein, il nous dit, il bâtit là un autel, il appela ce lieu El Bethel, qui veut dire le Dieu de Bethel. Eh bien, au verset 10, il dit, ton nom, jusque-là, c'est Jacob, qui veut dire le rusé. Tu ne seras plus appelé Jacob, mais tu seras Israël. Et lui donna le nom d'Israël. Il dit, à partir de maintenant, puisque tu as mis ta vie en ordre, tu viens, et bien maintenant tu es Israël, le vainqueur. Et puis après là, Dieu lui rappelle encore une fois les promesses qui ont été faites à Abraham, et dit, je te rendrai, au verset 11, je suis le Dieu Tout-Puissant, sois fécond, multiplie, une nation et une multitude de nations naîtront de toi et des rois sortiront de tes reins. Je te donnerai le pays que j'ai donné à Abraham et à Isaac. Je te donnerai ce pays à ta postérité, à toi. Et Dieu s'éleva au-dessus de lui dans le lieu où il lui avait parlé. Et verset 14, eh bien Jacob fait ce qu'il a fait au début de son trajet, parce qu'il avait eu ce songe de l'échelle qui descendait, et dit « Dieu est certainement ici ». Et à ce moment-là, il avait bâti un monument, un hôtel, et il avait oint d'huile. Il avait nommé le lieu Bethel. Et bien maintenant qu'il a fini sa boucle, qu'il est revenu à cet endroit, il a refait une promesse à Dieu. Dieu a fait une promesse à lui, et verset 14, il nous dit, Jacob dressa un monument dans le lieu où Dieu lui avait parlé, un monument de pierre sur lequel il fit une libation et versa de l'huile. Hein, donc c'est un endroit qui va être un témoignage, Dieu a été fidèle et moi je m'engage à vivre pour lui, Dieu sera mon Dieu. Et ici c'est Bethel, ici c'est le où Dieu réside. Et c'est là que je vais résider. Et donc, nous avons ce témoignage que Dieu a été fidèle. Et il nous dit, il va appeler, encore une fois, il va appeler ce Dieu, c'est Bethel. Je confirme le fait, c'est vraiment ce lieu, c'est Bethel. Et vous savez, chacun de nous, dans notre expérience par la foi, eh bien, il y a un lieu qui est Bethel pour nous. C'est un lieu où on revient. Ce n'est pas un lieu géographiquement forcément. Ça peut être une expérience, ça peut être une relation, ça peut être des circonstances. Mais c'est quelque part dans notre esprit, c'est l'endroit où j'ai rencontré Dieu et c'est l'endroit où je reviens. Et chaque fois que je m'éloigne de Dieu, ben, je reviens, c'est peut-être un passage biblique où, par lequel Dieu nous a parlé, et chaque fois que je m'écarte, je reviens, je pense à ce passage, je reviens, je relis ce passage, et quand je relis ce passage, tout d'un coup, ce que Dieu m'avait dit à un moment dans le passé, eh bien, me revient, et j'ai l'impression qu'en lisant ce passage, eh bien, je rentre de nouveau dans la communion avec le Seigneur. Pour d'autres, ça peut être une certaine activité, ça peut être rencontrer certaines personnes. Il y a des choses qu'on associe, hein. Nous, les humains, on a toutes sortes de choses qu'on peut associer et qui deviennent des références dans notre vie. Donc là, ça peut être une carte sur laquelle on a marqué quelque chose, ça peut être une attitude, ça peut être une certaine prière qu'on a rédigée à un certain moment et on la reprend, on la relit. Et quand on la relit, eh bien, tout revient, on a l'impression de reprendre communion avec le Seigneur. Donc nous avons tous besoin d'un Bethel dans notre vie et c'est un endroit où on revient toujours et régulièrement. Jacob avait fait un vœu et Dieu, qui est fidèle à ses engagements, eh bien, voulait que Jacob revienne, repense à ce vœu, et se souvienne de ce qu'il avait demandé de Dieu et qu'il constate que Dieu avait été fidèle. Il a dit, si tu me gardes, et si tu me donnes à manger, si tu me revais, et si tu me ramènes à cet endroit, eh bien tu seras mon Dieu. Eh bien Dieu dit, d'accord, alors est-ce que j'ai pris soin de toi? Est-ce que je t'ai gardé? Est-ce que je t'ai ramené à cet endroit? Et bien sûr, là, Jacob doit dire, oui, Dieu, tu as été fidèle. Moi, je n'ai pas toujours été fidèle. Et moi, j'ai été, hein, et souvent, nous, on a tous des parcours et des pertes de temps et des expériences inutiles et puis des expériences désagréables et des souvenirs désagréables. Mais c'est parce qu'on s'était écarté. Mais on revient, on trouve toujours Dieu. À Bethel, on trouve toujours le Dieu qui nous attend. Et Dieu, dans sa grâce, avait dit, Jacob, si tu veux vraiment mettre de l'ordre dans ta vie, retourne à Bethel, retourne à cet endroit, retourne à cette expérience, retourne à cet engagement que tu as pris. Et vous savez, ce que on a parfois cette idée que dans des moments particuliers, dans des moments où difficiles, alors on fait une prière à Dieu, on lui promet des choses. On dit, Dieu, si tu me sors de là, si tu prends soin de moi, si tu arranges cette situation, moi je vivrai pour toi. Et souvent, hein, combien sont ceux qui ont fait des promesses pareilles? Mais quand tout s'arrange, tout est en place, tout va bien, eh bien ils oublient leur engagement. Eh bien, ce que nous voyons ici, et ce chapitre 35, verset 1, nous dit, Dieu finalement, il écoute bien mieux que ce qu'on croit, ce que nous lui promettons. Quand on lui promet quelque chose, il s'en souvient. Et il faut faire très attention de ne pas promettre n'importe quoi, parce qu'il nous tiendra responsable de ce que nous lui promettons. Et nous devons, et lui s'attend, parce que lui, il garde ses engagements, et puis il s'attend à ce que nous gardons nos engagements. Hein, c'est dans tous nos contrats sur Terre entre les humains, eh bien, quand je m'engage vis-à-vis de quelqu'un, je m'attends à ce que l'autre personne aussi soit fidèle à ses engagements. Que ce soit dans le mariage, les deux se promettent des choses, que ce soit dans une location de quelque chose, que ce soit dans un contrat de travail, que ce soit dans un autre projet de construction, eh bien, quand il y a des engagements, et puis il y a chez les humains, il y a des signatures, eh bien, ça veut dire, toi, tu gardes tes engagements, moi, je garde les miens, et comme ça, tout ira bien. Eh bien, Dieu aussi, hein. Et on ne doit pas dire, ouais, mais Dieu, c'est pas grave. Non, non, Dieu, il dit, moi, je prends sérieusement ce que vous me promettez, ce à quoi vous vous engagez, moi, je m'engage, et vous, vous engagez, et je vous tiens responsable, et je veux vous revoir. Et donc, de temps en temps, il est bon pour nous de nous arrêter, de dire, mais qu'est-ce que j'ai promis à Dieu? Est-ce qu'il y a eu un moment où j'ai promis de le suivre? Est-ce que j'ai promis de lui quelque chose? Il faut se dire, il faut se rappeler, c'est qu'il l'a entendu. Quand on lui a promis quelque chose, quand on lui a dit qu'on lui ferait quelque chose, qu'on vivrait pour lui, eh bien, il l'a entendu. Et il compte dessus. Parce que lui, eh bien, il veut être fidèle avec nous aussi. Hein, donc, nous devons faire très attention. Et là, dans ce chapitre, eh bien, pour moi, eh bien, je vois là Dieu qui dit... Quand il dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel, demeure-y, et tu dresseras là un autel au Dieu qui t'est apparu. Il est en train de lui rappeler, il dit, tu te souviens quand je t'ai apparu? Tu te rappelles ce que j'ai dit? Moi, je me souviens de ce que tu as dit. Maintenant, eh bien, garde tes engagements et c'est là que je veux te rencontrer et c'est là, ce sera le commencement d'une autre vie. Et donc, il est bon pour nous de nous arrêter et puis peut-être de prendre le temps de méditer un petit peu, de voir si, où est-ce que j'en suis par rapport à des promesses que j'ai faites à Dieu, où est-ce que j'en suis par rapport à des engagements que j'ai pris, parce que Dieu entend et Dieu eh bien, nous tient responsables. Et on ne peut pas, parce que Dieu n'oublie rien, nous nous oublions ce qu'on a promis, mais Dieu n'oublie pas et... Il attend la réponse. Et parfois, on se demande où est Dieu. Il dit, mais je suis là où tu m'as promis de me trouver. Hein, où tu m'as promis, je suis là, je t'attends à cet endroit-là. Hein. Et donc, nous devons, si nous avons été infidèles ou si nous avons été peut-être récalcitrants, eh bien, nous devons demander pardon et revenir, mettre de l'ordre dans notre vie comme Jacob a mis de l'ordre dans sa vie et il a dit, bon, on enlève tous les dieux étrangers et tout ce qui s'y rapporte et maintenant, on va vivre pour lui, sanctifier notre vie. Donc, que Dieu nous aide dans cela et vraiment prendre soin de nous. Et nous allons nous arrêter là avec ses pensées et prendre quelques instants où chacun pourra penser à lui-même, sa propre vie, penser à des promesses peut-être qui n'ont pas été gardées ou bien de réaffirmer des promesses qu'on a déjà prises et qu'on dit Seigneur, aide-moi à les réaliser. Je prends quelques moments de silence et le Seigneur, qu'on puisse prier au Seigneur et que le Seigneur nous aide. Sachant que si on a été infidèle, lui est fidèle, on peut toujours lui demander pardon, il est prêt à nous pardonner, il est prêt à nous aider et nous accompagner dans nos engagements vis-à-vis de lui. Prions.